et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous et tout d'abord, très bonne année 2022. Soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après notre Noël à Montréal, une émission spéciale à Paris, nous irons au pied de la Tour Eiffel et sur les Champs-Élysées avec un grand photographe. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Le photographe iranien Reza a choisi de commencer cette année 2022 avec nous, depuis Paris, en déambulation dans la ville, entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Il a publié un livre de photos et de dessins avec Plantu sur l'état du monde, un ouvrage humaniste qui porte l'espoir avec humour et émotion. Nous avons demandé à nos libraires de choisir des auteurs et des moments de radio qui ont marqué l'année 2021, dans la librairie francophone bien sûr. Vous entendrez ainsi en fil rouge Eric Orsena pour son livre sur Beethoven, Magali Lehuche pour une BD sur les Beatles, Louis-Philippe d'Alembert qui était en lice pour le Goncourt avec son livre sur George Floyd et Vinciane Meuchler pour un roman choc sur la folie. Les libraires vous diront aussi quels sont les livres qui vont selon eux faire l'événement en ce début 2022. Les libraires, fidèles au poste donc. Bonjour Mike Vienno.
Allô, ça va bien? Bonne année à toi.
Bonne année Mike, on est ravis de vous retrouver en cette année 2022 pour représenter le Canada. Vous êtes libraire à Montréal dans la librairie Monet. On était chez vous pour Noël la semaine dernière. Vous êtes en forme? Tout s'est bien passé depuis?
Oui, en pleine forme. Vous avez aimé votre visite?
Ah oui, bien sûr, évidemment.
Oui.
Génial, oui, à Noël à Montréal. Vous pouvez d'ailleurs réécouter cette émission en podcast et balado-diffusion. Pour la Belgique, c'est Déborah Damblon qui est avec nous. Elle n'était pas à Montréal. Bonjour Déborah.
Hélas, Emmanuel, hélas, l'année prochaine je viens.
Oui, c'est ça, en 2022. Allez, on espère, on croise les doigts. Bonne année à vous Déborah.
Bonne année Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Le Public par filigrane à Bruxelles. Ouais. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous adorez les fêtes, vous adorez Noël, vous adorez le jour de l'an. Vous êtes libraire en Suisse dans la librairie Une Petite Prose à Baudry. Voilà. Et là, c'est la belle et heureuse année 2022 pour vous que je vous souhaite.
Bonne année à vous aussi, Emmanuel.
Merci, Dominique. Enfin, pour la France, c'est Sophie Todescato qui est avec nous sous les illuminations du centre-ville d'Orléans. Bonjour, Sophie.
Bonjour Emmanuel, bonne année, meilleurs vœux.
Merci.
Meilleurs vœux d'Orléans.
Vous également, vous dirigez la librairie Les Temps Modernes à Orléans.
Bonne année, bonne année.
Le staff Benda Bilili qui vous souhaite également une bonne année. Avant de partir à la Tour Eiffel avec Reza, deux entretiens choisis par nos libraires. Nous leur avons demandé de choisir les auteurs et les moments d'antenne qui, selon eux, ont marqué la librairie francophone en 2021. Et vous allez l'entendre, c'est souvent inattendu. On commence tout de suite avec Mike Vienno au Canada. Mike.
Oui, moi j'ai choisi Eric Orsena. C'est un auteur tellement agréable, tellement intéressant à écouter, tellement intéressant à lire. Et je trouve que c'est une montagne de connaissances et puis il nous élève. On aime tellement l'entendre.
Alors quel livre avez-vous choisi? Parce qu'il est venu plusieurs fois dans l'émission. En 2021,
oui,
je crois que c'était pour Beethoven.
Exactement. Son livre sur Beethoven est intéressant. C'est tellement facile de le lire et il est tellement bon vulgarisateur.
Bon, on va l'entendre tout de suite, Eric Orsena, dans la librairie francophone. Le choix de Mike Vienno au Canada. Eric Orsena, qui est avec nous pour son nouveau livre autour de Beethoven. Sur cette musique symphonique, La passion de la fraternité, c'est le titre, raconte avec une grande liberté de ton la vie passionnée et agitée du musicien. Vous dites qu'il était dévoré par la musique.
Il était dévoré par la musique et aussi dévoré par le fait de répondre aux agressions de la vie. Comment il répondait aux agressions de la vie? Par la musique.
Ouais.
Comme d'autres répondent par le dessin. Parce que c'est ça à chaque fois, c'est-à-dire une enfance terrible, des maladies perpétuelles dont la sourdité, des drames puisqu'il y a la guerre. Et donc à chaque fois, il répond par un chef-d'œuvre.
Né le 16 décembre 1770 à Bonn, sa famille vient du nord, du côté de Louvain et Anvers. Et à l'époque, l'Allemagne n'existait pas. Vous l'expliquez très bien, Eric Orsena. Son territoire était morcelé comme ça en plusieurs petits états, des états régis par ceux que l'on nommait des princes électeurs. Et alors, il y a le grand-père de Ludwig qui rêvait de devenir musicien. Le père deviendra, lui, ivrogne au lieu d'être musicien à son tour. Et donc, tout repose sur Ludwig, chez qui on décèle des capacités. Et on lui donne pour mission, finalement, de devenir le nouveau Mozart.
Mais imaginez, on décèle des capacités, mais on le force un peu, puisqu'on le met à son piano au milieu de la nuit à 3 ans ou 4 ans.
Oui.
Donc vous imaginez ce que c'est. Mais ce qui me fascine notamment dans sa vie, c'est que c'est une sorte de suite d'espérance déçue et de relance de l'espérance. Et on le voit ça avec la musique, on le voit ça aussi dans la politique, puisque l'Allemagne n'existe pas. Mais donc l'Allemagne est très en avance sur la France en termes de liberté, d'université et tout ça. 89, c'est au fond une sorte de rattrapage du retard de la France. Et puis, bing, il y a la terrible terreur. Et Bonaparte arrive, espérance, et il devient Napoléon, drame. Et à chaque fois, il faut relancer l'espérance. C'est ça qui me fascine. Et qu'est-ce que relancer l'espérance? Eh bien, c'est essayer de faire un chef-d'œuvre. C'est ça qui m'a fasciné.
Alors, ce que va faire la famille de Beethoven, c'est qu'ils vont essayer de faire comme la famille du petit Amadeus. On va envoyer Ludwig en tournée alors qu'il est encore enfant. On appelait ça des tournées de virtuosité. L'idée, c'est de récupérer de l'argent, d'être face à un public, avec un public impressionné. Et voilà, le problème, c'est que ça ne rapporte pas grand-chose avec Ludwig.
Alors, imaginez, parce que je suis moins biographe que... Parce que d'autres ont fait des biographies formidables comme les Bassins. Mais moi, je suis romancier et j'imagine sur le Rhin, en plein hiver... le petit Ludwig avec sa mère, parce que le père est resté là. Et il fait tellement froid qu'il se blottit contre sa mère. Et il arrive en Hollande, où on le paye pas suffisamment. Le père a triché sur son âge pour qu'on pense qu'il soit plus jeune.
Oui.
Donc, ça soit un animal de cirque. Il revienne, il a rien gagné. C'est le mépris du père. Vous imaginez ce terreau-là, ce que ça veut dire? Et 2 ans après, il se retrouve accompagnateur au théâtre de Bonn, où arrive Schiller, qui a fait cette pièce formidable des brigands, c'est-à-dire les Voltaire. Et c'est lui qui, juste après, va écrire ce poème qui va l'accompagner toute sa vie. Toute sa vie, il aura ce poème en lui qui s'appelle l'hymne à la joie. Et la question que je pose, c'est est-ce que c'est la joie qui donne la fraternité ou est-ce que c'est la fraternité qui donne la joie? Regardez la dizaine de mesures qu'on a entendues. Mais on est plus grand, plus léger, on a envie d'embrasser. On a envie d'embrasser au lieu d'assassiner.
J'adore ça.
Non, c'est du caviar, Mélanie.
Oui.
Bah ouais.
La librairie francophone.
Oh, qu'il pâté, qu'est-ce qu'il est bon.
Non, c'est du foie gras, Mélanie.
Oui, bah c'est pareil, hein.
Emmanuel Kérad.
Et le livre d'Eric Orsena, La passion de la fraternité Beethoven, est paru aux éditions Stock. En Belgique, Déborah Damblon, vous avez été marqué, vous, par Boris Cyrulnik, Angélique Kidjo, la dessinatrice Coco, Agnès de Sarthe, mais aussi tout particulièrement par une auteure d'origine franco-suisse qui vit en Belgique.
Mais oui, par Vinciane Meuchler et son magnifique Alice et les autres.
Oui.
Parce que vraiment, il y a tout dans ce roman, tout. C'est une vraie histoire qui se tient, c'est une approche originale, ce sont des personnages mais bouleversants. C'est un sujet très important et qu'on aborde très très rarement. Il y a une maîtrise de l'écriture, mais vraiment, c'est un livre à découvrir absolument.
Oui, c'est vrai, c'était un gros coup de cœur de toute l'équipe de la librairie francophone. On écoute Vinciane Meuchler. Et bonjour Vinciane Meuchler.
Bonjour Emmanuel.
Sur cette musique de Leonard Cohen que vous citez dans votre livre Alice et les autres, paru chez Mercure de France. Nous nous sommes rencontrés lorsque nous étions presque jeunes. Tu t'es agrippé à moi comme si j'étais un crucifix pendant qu'on traversait à genoux l'obscurité. C'est une partie de la traduction de ce titre. Ça reflète très bien votre livre. C'est une histoire choc, votre roman, Vinciane, à tous les sens. Par sa forme, par son récit, par son réalisme, vous racontez une folie, une pathologie nommée TDI, trouble dissociatif de l'identité. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est comment quelqu'un met un mécanisme en place pour finalement survivre à un traumatisme. Donc c'est une dissociation, c'est-à-dire que on se dissocie en plusieurs personnes.
Mais c'est ça.
Voilà.
Alors ça existe effectivement, le diagnostic en Amérique du Nord notamment, ailleurs il y a controverse et on le voit d'ailleurs dans votre livre avec le docteur C dont le diagnostic est remis en question.
C'est une pathologie qui est très très mal connue et qui justement divise en fait la psychiatrie. Parce qu'on a souvent confondu avec la psychose, la schizophrénie, alors qu'en fait c'est une névrose, puisque la personne, quand elle n'est pas dissociée, a tout à fait une structure normale, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et du coup, le psychiatre, en fait, dans le roman, j'ai voulu qu'il parle un petit peu, donc qu'il explique aussi ce que c'était le trouble dissociatif de l'identité, et aussi montrer de son ambivalence, parce que lui, il s'occupe donc de Madame Morin depuis qu'elle est jeune, donc Alice. Et en fait, lui, il est très touché par cette jeune fille, par cette femme qui suit tout au long de sa vie. Elle est hospitalisée. Et à la fois, ben, il a un côté, il est un peu orgueilleux, donc c'est un peu son cas clinique. Donc du coup, il fait un peu tout pour, voilà, il fait des conférences, il fait, voilà, il veut la sauver aussi.
Donc, Alice, effectivement, c'est votre personnage multiple. Elle raconte son histoire. On ne peut pas trop en dire, hein, Vinciane, parce que la construction de votre livre est parfaite. Et on apprend les choses au fur et à mesure, comme ça, avec des surprises. Donc on va pas gâcher le plaisir de lecture à ceux qui nous écoutent. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a des crises au cours desquelles elle change d'identité, et vous travaillez d'ailleurs dans un grand hôpital psychiatrique à Bruxelles, et il y a des passages terribles chez ces personnes-là, notamment un passage à la piscine, ça vous pouvez le raconter peut-être.
Elle est tombée amoureuse de Guy, qui est son mari, et en fait, en ne sachant pas, lui, qui partageait sa femme avec plusieurs autres personnalités, et un jour, il est à la piscine avec elle, et en fait, quand les personnes se dissocient, on dit qu'ils passent d'un personnage à un autre, ils sont ce qu'on appelle des alters, et tout à coup, effectivement, il y a quelque chose qui fait dans son attitude qui lui fait rappeler des souvenirs traumatiques et tout à coup, elle switch, on dit qu'elle change de personnalité, elle devient tout à fait différente. Et lui est évidemment très surpris de...
Oui, elle se fige comme ça dans l'eau alors qu'il l'entoure en fait, devant tout le monde, devant les maîtres nageurs. Et elle commence à lui parler avec une autre voix et elle lui dit « C'est quoi ces manières de me tripoter dans l'eau salopard ?» Et lui comprend pas ce qui se passe. Personne ne comprend.
Non.
Alors il va tout faire pour l'aider. Pour surmonter comme ça ces troubles, le problème c'est qu'il ne réalise pas la gravité de la situation. On peut même se poser la question, et les médecins se posent la question sur lui, parce que comment a-t-il fait pour être aussi ingénu, pas un soupçon comme ça malgré des mois de vie commune?
C'est-à-dire que je pense que lui, il est complètement amoureux d'elle et que la personne peut fonctionner pendant des années sans qu'il se passe rien. Donc il est tombé aussi sur les années où ça s'est bien passé. À un moment, elle s'est absentée, il n'a pas eu de nouvelles d'elle, elle était hospitalisée et... À travers ce personnage, c'est aussi ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire que très souvent, le trouble dissociatif de l'identité est représenté par des serial killers, par des psychopathes, et là vraiment, j'avais envie de montrer, redonner une humanité finalement aux êtres qui sont brisés, puisque c'est le cas. Et non de parler d'une pathologie qui est spectaculaire, parce que c'est vrai, on est dans la grande folie, c'est quelque chose de... Voilà, je l'ai rencontré à travers ma pratique en psychiatrie, et c'est vrai que c'est quelque chose de... On a la peine à y croire, tellement...
Mais alors ceux qui entourent ces personnes-là, un compagnon par exemple, ou une compagne, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a des relations que l'on souhaite coûte que coûte, c'est un peu ça, en se voilant la face, quitte à risquer sa vie, parce que alors, ça peut aller jusque-là.
Il y a un moment donné, le psychiatre, dans le livre, il dit à un moment donné, mais finalement, qui est le plus fou des deux, entre elle et lui? Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils subissent tout ça et qu'ils... Voilà.
Bon, vous montrez en tout cas avec beaucoup de subtilité la folie. Folie qui est un sujet souvent tabou, hein, parce que devenir fou, c'est possible pour chacun d'entre nous. Quelles sont les sécurités, vous qui travaillez dans un hôpital psychiatrique, les sécurités, les vrais garde-fous auxquels on a besoin pour rester équilibré dans la vie?
Alors elle a justement, elle a Guy qui la soutient, qui est là, quoi, qui lui donne cette liberté, il lui donne la possibilité d'être libre, d'être une maman, d'être parce que il est là, il soutient. C'est vrai que ça c'est
donc
capital.
Un compagnon ou une compagne, ça aide.
Oui, si on est seul et très souvent c'est le cas quand même quand on voit la structure familiale ou la structure de la personne, il y a personne dans l'entourage.
Ouais. Donc l'entourage compte beaucoup.
Ben oui.
Le roman de Vinciane Moechsler, Alice et les autres, est paru aux éditions Mercure de France. Le temps de partir à la Tour Eiffel avec Reza. Voici Oclou et Pomme dans la librairie francophone. Bonne année 2022 à tous.
C'est ce que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Se joue de nous. laisser sans bruit les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous.
C'était Auclou et Pomme avec Galore dans la librairie francophone et on arrive sous la Tour Eiffel.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Bonjour Reza.
Bonjour Emmanuel.
Bonne année tout d'abord.
Eh bien, à toi aussi et pareil à tout le monde qui nous entend.
Voilà, on souhaite nos meilleurs voeux à tout le monde ici depuis la Tour Eiffel. Merci de passer ces premières heures de 2022 avec nous, Reza, ici à Paris, dans un lieu emblématique, connu évidemment dans le monde entier. On est sous la Tour Eiffel, on a autour de nous quelques boutiques de souvenirs, de façon très improbable. Alors je ne sais pas si vous attirez les oiseaux, vous Reza, mais moi en tout cas c'est mon cas. On a des mouettes, des mouettes d'hiver qui sont là, qui doivent être d'ailleurs en refuge par rapport à la température, puisqu'il y a la Seine juste en bas.
Les oiseaux, ils sont toujours, comment dirais-je, pour le début de l'année surtout, les entendre, c'est certainement, ça montre une très très belle année qui va venir avec ce chant des oiseaux.
Ah oui, ça porte bonheur, vous pensez-vous?
À 100%.
Ah voilà. Ben j'espère.
Oui.
J'espère.
Vous allez voir, très belle année.
On verra, on en reparlera à la fin de l'année. Bon, on est devant et sous la Tour Eiffel, hein, Reza, ce monument majestueux. C'est un monument qui a inspiré, qui a attiré l'œil du grand photographe que vous êtes.
Écoutez, déjà, je me souviens, à l'âge de 12 ans, en Iran, à Téhéran, c'était le premier objet que j'ai construit avec les petites planches de bois et des scies et tout le travail que ébéniste enfin. C'était le premier objet, bâtiment que j'ai construit à 12 ans.
Ah oui,
en Iran, c'était la Tour Eiffel. Voilà. Et maintenant, je me trouve 60 ans après à côté de la Tour Eiffel en vrai.
Oui.
Et ça me rappelle toujours ce moment extraordinaire où j'avais construit ça et j'avais même mis éclairage dedans. Et quand j'ai mis les piles, ça allumait de l'intérieur.
C'était flamboyant.
C'était incroyable ce moment.
Bon ben voilà, on ne savait pas cette histoire. Comme quoi il y a toujours un destin quand on fait des rencontres et quand on organise comme ça des moments de radio. Plantu, Reza, Regard croisé et le livre qui est sorti avant les fêtes chez Gallimard. Plantu qui a fait des liens entre ces dessins et vos photos. Au-delà de couvrir chacun à votre façon l'actualité internationale, vous avez des points communs. Dévoiler les vérités du monde, contrer les mensonges politiques, analyser avec humanisme surtout les enjeux géopolitiques, c'est ça en fait.
Il y a des mots que vous venez d'utiliser, l'humanisme, géopolitique, la vérité, la révélation. C'est ce que Jean et moi on fait depuis... Lui, il est 50 ans, moi, ça fait 40 ans, chacun a sa façon. Mais en réalité, c'est le langage de l'image, c'est le langage universel. Ça donne une nouvelle forme de regarder. Les gens, ils connaissent mes photos, ils connaissent les dessins de Jean. Mais devant ça, ça crée une autre énigme, ça crée une mystère presque.
Oui,
c'est
vrai.
Très mythique.
Ouais. Ouais. Très mystique parce que les photos répondent aux dessins et vice-versa. Alors Plantu dit que le plus grand combat, c'est celui contre l'ignorance. Mais selon lui, pour ce combat, il faut garder sa part d'enfance. Vous êtes d'accord avec ça ?
100% de temps. Quand on n'a pas son part d'enfance, on ne peut pas créer. Dans la créativité, il faut garder cette part d'enfance que n'importe quel créateur, il a ça.
Alors vous, Reza, depuis votre passé en Iran, les tortures vécues là-bas, puis votre exil, on constate par vos photos que vous êtes attiré par le regard et le visage des autres, par les enfants afghans aussi, qui ont été les modèles de certaines de vos photos célèbres dans le monde entier. Pour habiter ce monde, il faudrait protéger tous les enfants, mais aussi protéger notre part d'enfance quand on devient adulte. C'est ça le plus difficile.
Tant qu'on n'a pas gardé son enfance, on ne peut pas défendre les enfants. On ne peut pas comprendre leurs problèmes, on ne peut pas comprendre leurs souffrances. C'est pour ça que chaque fois que je vois un enfant qui pleure de souffrance, c'est vraiment presque c'est comme si c'était la première fois dans ma vie que je voyais un enfant qui souffre. Or, Dieu sait, j'en ai vu des dizaines de milliers mais c'est garder ce regard de fraîche qui me fait encore continuer et être ému devant les événements, parce que tant que moi je suis pas ému, comment je peux transmettre cette émotion dans mon travail photographique?
Alors dans votre livre, il y a des photographies d'enfants, bien sûr, il y a des enfants qui travaille. Vous en avez photographié. Et Plantu montre un enfant devant un sapin de Noël qui reçoit un coffret de bricoleurs pour jouer. Et un autre enfant devant une usine obligé de prendre un marteau pour aller travailler comme les adultes. Et c'est vrai que protéger les droits de tous les enfants du monde, ce serait une cause prioritaire pour 2022.
Ceux qui souffrent le plus dans toutes ces guerres, des conflits, guerres économiques, guerres idéologiques, tout ce que vous voulez, c'est des enfants en première. C'est eux qui souffrent le plus. Ensuite, c'est les femmes. Donc, c'est ces deux populations qui sont les plus souffrantes que je vais depuis 40 ans sur les zones de guerre, les conflits, les camps de réfugiés, partout, partout, partout. Or, ce sont le moins présents quand on parle de problèmes de guerre, quand on parle de l'humanité. Donc, c'est pour ça que 2022 et les suites, il faut qu'ils soient vraiment l'année où on s'occupe des enfants et surtout des femmes qui souffrent de différents problèmes.
Cette année 2022, Reza, s'annonce pleine d'incertitudes. Comment voyez-vous les choses, même si les oiseaux nous porteront bonheur, ceux qui sont autour de nous?
Le premier jour de chaque année, il faut qu'il soit plein de joie. Quoi qu'il soit, où qu'on soit, il faut qu'on se dise, je vais avoir 365 jours ou 4 jours de merveilleux, et il faut partir sur ça. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas de plan B, c'est vraiment le seul moyen de démarrer le premier jour en se donnant les meilleures choses, c'est encore devant moi.
Bon, ce premier week-end de janvier ensemble, on va rester positif dans la joie aussi. On va se retrouver sur les Champs-Élysées, on va quitter les oiseaux et on va se retrouver sur la plus belle avenue du monde, paraît-il. Mais bon, c'est discutable en fonction du pays où on est. Et on va voir justement ce lieu festif, lieu de toutes les fêtes.
En France, on est le seul pays qui se souhaite la bonne année jusqu'à fin février. Hein.
La librairie francophone.
Des fois, t'oublies, t'es dans un autre délire. Et genre, le 19 février, t'entends, et puis une excellente année à vous.
Emmanuel Kérad.
Reza, ce sont les libraires qui ont programmé l'émission aujourd'hui en grande partie. Ils ont choisi les auteurs et moments qui ont marqué selon eux l'année 2021 dans la librairie francophone. On reste en France, on va à Orléans avec Sophie Todescato de la librairie Les Temps Modernes. Vous avez voulu revenir sur une bande dessinée très musicale, Sophie.
Oui, 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 parce que je suis une groupie de Magali Lehuche et de son roman graphique Nowhere Girl, qui, je trouve, est vraiment un des meilleurs livres parus en 2021. En tout cas, un de ceux qui vraiment a eu le bon goût en cette année un peu bizarre de nous faire tellement rire avec son humour incroyable, son sens du détail qui tue, tout en nous allant droit au cœur. Donc, ce sera vraiment un plaisir de commencer l'année avec elle.
Bon, on écoute un extrait de l'entretien avec Magali Lehuche. Et bonjour Magali Lehuche.
Bonjour.
Ce petit cadeau pour vous.
C'est gentil.
Avec ce titre des Beatles, extrait de l'album With the Beatles. C'est le deuxième du groupe daté de 1963. C'est un album que vous écoutiez. On va raconter tout ça parce que vous publiez une bande dessinée proche du roman graphique qui raconte votre phobie scolaire au collège et votre passion pour les Beatles. Vous les découvrez avec cet album alors que vous êtes en sixième en France.
Oui.
Et c'est votre sœur qui écoute ça ?
C'est ma sœur qui avait enregistré des cassettes, comme on faisait à l'époque, qu'elle avait enregistré d'une cousine à nous, et elle avait With the Beatles et Sgt. Pepper. Et mes parents avaient acheté pour l'anniversaire de Sgt. Pepper, je crois, l'album. Donc c'était les deux seuls qu'on avait, With the Beatles et Sgt. Pepper.
Bon, très bon titre, hein, d'ailleurs, qu'on n'entend pas souvent, celui-ci, qui ouvre l'album.
Ouais, tout à
Alors
fait.
Vous êtes en sixième, Magali, et c'est l'angoisse, avec une prof de français très sévère, qui dit d'ailleurs à la fin de ses phrases, « Y a bon banania ». Qu'est-ce que c'est que cette
phrase? J'ai compris plus tard que c'était quand même un peu dingue de,
bah oui,
de dire
même,
ça.
Oui.
Mais ouais, elle disait ça quand on avait bon, quoi. C'était... Mais ouais, elle était assez traumatisante, cette professeure de français qui devait prendre sa retraite l'année où je suis arrivée en sixième et qui finalement a quand même fait encore un an. Et voilà. Donc j'ai pas inventé, ça a vraiment existé, quoi.
Alors vous dessinez un tourbillon coloré à chaque fois que vous entendez les Beatles. C'est votre bouée, c'est votre réconfort, cette musique.
C'est vraiment un refuge, ouais. Je pense que j'ai trouvé refuge dans la musique, parce qu'avec les Beatles, j'ai découvert la musique. Et en plus, je pense qu'il y avait cet univers instrumental qui me permettait de m'échapper à l'école, la grammaire, aux mots, quoi, aux mots.
Ouais, ouais.
Et donc voilà, j'ai trouvé refuge avec la musique des Beatles.
Alors vous sombrez dans une angoisse terrible à l'idée d'aller au collège. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que quand vous partez le matin, vous dites avoir l'impression de laisser un peu de votre enfance à la maison.
C'est vraiment le sentiment que j'avais et dont je me souviens. Quelque chose qu'il faut quitter, quoi. Il y a un petit deuil à faire avec quand on grandit. Mmh. J'ai mis du temps, en fait, même à cette époque-là, à me rendre compte que ça n'allait pas. Parce que moi, je voulais y aller à l'école. Je voulais être bonne élève. C'était peut-être d'ailleurs même le problème, c'est que je voulais être bonne élève et que du coup,
j'avais oublié. Oui, dès l'entrée en sixième, vous dites, il faut que j'assure.
Ouais, je pense que c'est même venu avant. Donc, en fait, je me mettais la pression déjà depuis CM1, CM2 pour être bonne élève, alors que j'étais pas spécialement bonne élève, même j'étais, voilà, moyenne, quoi.
Mais alors, pourquoi l'angoisse comme ça? Parce que vous retrouvez des copines, enfin, bon, c'est vrai que c'est un changement le passage en sixième au collège, mais à ce point-là.
Je pense que j'avais une pression que j'ai pas supportée. Je pense que j'ai aussi projeté sur l'école l'angoisse que j'avais de grandir.
Mais
moi, je voulais pas grandir.
Mais...
J'avais peur de quitter l'enfance, quoi, vraiment. Et donc, je voulais vraiment parler de ce passage, en fait, entre l'enfance et la préadolescence, où il n'y a pas de mots pour ça. C'est ce passage un peu bizarre. Et je me souviens me dire, en octobre, peut-être au tout début de la sixième, me dire, mais il y a quelques mois, il y a 4 mois, j'étais encore une enfant et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je suis.
Ouais.
Donc, nowhere girl, quoi.
Nowhere girl, en anglais, hein,
ouais.
Cela dit. Ce titre en anglais, franchement, Magali.
Hein. Ouais.
Mais bon,
ouais.
Hein, limite.
C'est vrai, mais bon, en même temps, c'était en référence à la chanson de John Lennon.
Oui, oui, c'est vrai. Bon, il y a un fond groupie hein, chez vous, vous le dites
groupie.
D'ailleurs. Ça commence par le Père Noël.
Oui.
Et puis, quand vous réalisez que le Père Noël n'existe pas, vous vous rabattez sur Jésus.
Ouais.
Et vous dites, Jésus et moi, ça a duré 4 ans.
Ah non, mais vraiment.
Et vous l'idolâtrez, hein, même physiquement, sur la croix.
Bah oui, il y a moitié nu comme ça avec son petit drap. Enfin, forcément, moi,
c'est un blasphème, vous savez, ça pour les catholiques.
Je le trouvais extrêmement beau. Je dois dire que. Et puis en plus, il nous aime quoi qu'on fasse, donc j'étais conquise, quoi.
Et puis après, il y a eu Christophe Lambert, plus accessible. MacGyver aussi, Jean-Marc Barr, Morten du groupe AA.
Ouais.
Et puis les Beatles.
Oui.
Passion débordante. Et la preuve de votre bon goût arrive enfin lorsque, pour les 30 ans du groupe, leur titre « Love Me Do » ressort et figurez-vous qu'il devient numéro 1 au top 50. Vous saoulez tout le monde, hein, tout votre entourage avec les Beatles, Magali Le Huche.
Ouais.
Vous dites, à la fin de la sixième, je m'étais totalement replié sur moi.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est une bouée, cette musique-là, mais c'est un handicap aussi, cette passion. Vous avez réalisé que vous vous enfermiez dans un monde passé, dans un monde décalé?
Ben, je l'ai réalisé après, un peu plus tard, en fait. J'avais certainement besoin de cet isolement pour passer le cap, en fait. Mais en effet, je me suis un peu auto-exclue. Parce que déjà, je pense que j'étais extrêmement pénible avec mes copines, intolérante à tous leurs goûts autres que les Beatles. Je supportais pas qu'elles les méprisent, qu'elles les aiment pas.
Ouais.
Et puis, j'étais honnêtement saoulante, quoi. Parce que je ne parlais que de ça. J'étais complètement obsédée par eux, quoi. C'était un peu ma raison de mon sentiment d'injustice, de mon mal-être, de tout. Enfin, j'avais tout projeté là-dessus pour aller mieux, quoi.
Ouais. Vous dites, d'ailleurs, vous êtes tellement isolée que vous êtes mise à avoir peur des autres.
Mmh.
Oui, c'est un peu de la phobie sociale, hein, finalement. Mais
rejoint ça.
Complètement, ouais. Ça a découlé. La phobie scolaire, c'est un petit peu déplacé. Et je me rappelle avoir peur de passer devant des sorties de collège avec du monde. Et c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir quand même aller mieux, quoi. Il va falloir que ça change. Je pense que petit à petit, les choses se font petit à petit, mais c'est comme ça aussi que ça a changé.
Et le livre de Magali Le Huche, Nowhere Girl, est paru chez Dargo. On va sur les Champs-Élysées avec Reza pour cette émission spéciale Nouvel An. On est sur le chemin et on écoute tout de suite Yeli Yeli dans la librairie francophone.
Quand je ne sais plus rien, une douce musique revient. Elle arrive de très loin. Aïe, ma chaleur.
C'était Yeli Yeli avec Liberté.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et nous sommes avec le photographe Reza pour ce début d'année 2022. Émission spéciale à Paris. Après Noël à Montréal, on vous propose un jour de l'an à Paris. Nous voici arrivés sur les Champs-Élysées, le lieu des festivités pour célébrer la nouvelle année. Vous êtes déjà venu ici prendre des photos lors des festivités de la nouvelle année, Reza ?
Je ne crois pas pour la festivité, mais certainement, comme tout le monde, dès qu'on arrive à Paris, il y a quelques adresses, dont les Champs-Élysées. Il faut y passer, il faut voir ce que c'est, il faut le voir et vivre ce Champs-Élysées.
Alors autour de nous, il y a des statues qui vous ont interpellé dès qu'on est arrivé. On voit l'œil du photographe parce que effectivement les contrastes, tout ça, ça vous intéresse. On a des gorilles monumentaux de plus de 4 mètres de haut. Installation provisoire de Richard Orlinski avec un gorille rouge là face à nous qui tape sur sa poitrine. Un ours blanc et puis juste derrière un gorille avec un bleu violet magnifique. Il y a un chapitre dans votre livre « Plantureza, regard croisé » qui évoque la fragilité du monde. Vos photos ont témoigné parfois sur la dégradation environnementale. C'est aussi un enjeu majeur pour 2022 et pour les années à venir. Depuis que vous parcourez le monde, pour le National Geographic notamment, vous avez constaté de vrais changements, de vrais désastres écologiques ?
Les désastres écologiques, oui, de plus en plus on les voit. Mais ce qui est important pour moi et ce qui est vraiment bien, c'est que on prend quelque part la possession de cette pollution. On commence à connaître ça. Les gens, ils commencent à réagir ça. Et c'est pour ça qu'il est positif de ce qui se passe actuellement. Et c'est pour ça que le travail des artistes, d'essayer de montrer ça, les journalistes, les activistes, ça a servi à ça. C'est que il y a 15 ans, il y a 10 ans, peu de gens ils s'intéressaient à ce qui est l'écologie ou l'environnement. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui ne s'intéressent pas.
Oui, c'est ça. Donc,
ça a changé beaucoup. Et ça, c'est grâce à toutes ces campagnes, à ces expos et tout le travail que les artistes y font aussi.
Alors, on passe devant une grande enseigne, une marque de luxe très célèbre qui fait de fameux sacs, paraît-il. Avec un restaurant aussi très célèbre, tout de rouge vêtu, que l'on connaît sur les Champs-Élysées, en perspective bien sûr l'Arc de Triomphe et puis la Maison Dior qui est en train de s'installer avec sur les Champs-Élysées un bâtiment qui est en train d'être aménagé et une façade que Reza est en train de prendre en photographie parce que il y a effectivement des supports avec des robes, avec des vêtements qui sont dessinés sur la façade. Et c'est assez étonnant parce que c'est presque plus intéressant que...
C'est très étonnant.
Oui, plus intéressant que le magasin quand il va être fait peut-être. Ça vous plaît ça ?
Oui, moi j'adore. Ils ont fait un très beau travail sur la façade de ce bâtiment qui est en train de certainement être rénové à l'intérieur. Très intriguant, en mettant de très jolies couleurs, très bon choix de couleurs. Les robes, les vêtements, ce qui est quelque part le marque de France aussi.
Ouais.
Les gens, ils aiment la France pour ça aussi.
Puisqu'on a cité Dior, donc effectivement, juste en face, il y a Louis Vuitton. Bon, Reza, en 1990, vous dites avoir reçu l'une des plus grandes leçons de votre vie avec un jeune garçon qui quitte l'école avec un plan entouré de terre, une jeune pousse dans la main. Et vous l'interpellez, vous lui dites, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?
Oui, c'est que... Ce qui est bien dans ce travail photographique, c'est que chaque fois qu'on rencontre des gens, c'est une rencontre presque des fois, ça devient le grand maître, on apprend beaucoup de choses. Ce garçon, dans ce village qui est tout détruit, qui n'a plus un seul arbre, après 10 ans de guerre, où les aviations russes, ils ont tout bombardé, d'un seul coup, il me dit, cette puce qui est sortie de l'école, je dis, qu'est-ce que tu vas en faire ? Il me dit, je vais en faire un arbre. Et ça, que je vais en faire un arbre, c'est une phrase qui résonne tellement dans moi. Et chaque fois que je vois les gens, les activistes, les gens qui sont amoureux de nature, qui veulent vraiment faire remonter de nouveau cette nature, je pense à ce garçon qui dit « je vais en faire un arbre ».
Alors dans ce livre, il y a aussi des photos et dessins sur les déchirures du monde, les guerres entre religions, les attentats. Et ici, à Paris, cela résonne tout particulièrement. Le monde occidental a basculé depuis les attentats meurtriers, Reza.
Le monde entier, depuis 2001, quelque part, selon ce que je vois, selon ce que je vis constamment, a complètement changé. On n'est plus le même monde, on n'est plus les mêmes groupes de gens, des gouvernements, qu'avant 2001. Et on ne sait pas exactement d'où vient tout ça. On ne sait pas quelles sont les raisons derrière toutes ces histoires de terrorisme, de la guerre contre le terrorisme, l'économie qui existe derrière tout ça. Mais un jour ou l'autre, on le saura. Et quand on le sera, certainement, il va y avoir des zones de l'ombre qui va être un peu mettre à l'éclairage par rapport à ce que nous vivons maintenant ici.
Bon, il y a aussi dans ce livre cette phrase de Sénèque, on va conclure avec cela. Sénèque qui disait, qui écrivait « Vivre, ça n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. »
Eh bien, si on ne sait pas danser sous la pluie, c'est que quelque part, on a raté sa vie. C'est pas avec une Rolex qu'on rate pas sa vie, c'est de ne pas danser sous la pluie qu'on va rater sa vie. Et cette phrase est merveilleuse. Oui, oui, il faut savoir constamment, dans n'importe quelle condition et situation, danser sous la pluie.
On espère en tout cas qu'en 2022, le soleil reviendra et que les averses cesseront, au moins pour un temps. Merci beaucoup Reza d'avoir commencé 2022 avec nous depuis la ville de Paris pour cette émission du jour de l'an. Merci.
Soyez persuadés que ça va être une très belle année.
On espère qu'on va porter bonheur à tout le monde avec cette émission et avec ce moment ici sur les Champs-Élysées. Plantu, Reza, Regard croisé est paru chez Gallimard. À bientôt Reza.
À très bientôt.
On termine cette première émission de l'année avec Dominique Bressoux en Suisse qui a choisi d'écouter Louis-Philippe d'Alembert, candidat malheureux du prix Goncourt. C'est pour vous Dominique pourtant l'un des moments forts de cette année 2022.
Oui, exactement. Disons, la communication, le respect de l'autre, ça reste vraiment les grands enjeux du 21e siècle, à mon avis. Et a priori, pour commencer l'année, il n'y a rien de tel que ce livre. Et ça, c'est un plaidoyer pour la tolérance, la compréhension, et d'une écriture telle qu'on se glisse dans la peau des personnages, on les voit, on les entend, on les comprend vraiment. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'ex-aequo au prix Goncourt, en fait. Ça aurait été bien.
Exactement, on est d'accord. Le temps de nous retrouver en studio pour la fin de cette émission avec la chronique des libraires depuis la maison de la radio, toute proche de la Tour Eiffel et donc pas très loin des Champs-Élysées. On écoute Louis-Philippe d'Alembert qui était avec nous à Morges en Suisse au mois de septembre. I'm a young black man. Et bonjour Louis-Philippe d'Alembert.
Bonjour.
Sur cette musique de Kidwan Bryant qui a 12 ans et qui a chanté cette chanson à la mort de George Floyd. Il a réuni des millions d'internautes comme ça qui sont venus voir sa vidéo et cette chanson. Il a ensuite été signé dans une grande maison de disques chez Warner et voilà le résultat aujourd'hui. Vous êtes un écrivain haïtien, auteur d'une dizaine de romans, lauréat du prix Goncourt en Suisse avec Mur Méditerranée en 2019 et vous publiez en cette rentrée Milwaukee Blues aux éditions Sabine Westpizer. Vous racontez le destin terrible d'un homme ordinaire qui ressemble à George Floyd, car il meurt comme lui. Il vit à Milwaukee au lieu de Minneapolis. Il subit le même contrôle de police abusif. Pourquoi avez-vous romancé un fait réel ?
Vous connaissez sûrement le roman « De sang froid » de Truman Capote.
Oui.
Donc, ça m'a d'une certaine façon inspiré. Donc, c'est la première chose. Mais j'ai romancé parce qu'avec le roman, on arrive à dire plus de choses, en fait. Et vous imaginez bien que je n'ai pas écrit ce roman immédiatement seulement après cette histoire de George Floyd. Il y avait en 2014 l'histoire de Eric Garner qui était mort dans les mêmes conditions. Donc c'est un pays que j'aime énormément d'ailleurs, les États-Unis, qui fait partie de mon histoire familiale depuis ma naissance pratiquement.
Vous avez vécu d'ailleurs à Milwaukee.
J'ai enseigné plutôt à l'université, comment dire, là-bas. Donc c'est une histoire, c'est un pays qui est à la fois fascinant et dérangeant sur plein de choses. Donc du coup, il y a eu cette histoire et j'ai voulu en faire un roman. C'était pour moi une porte d'entrée, en fait.
D'accord, mais alors vous êtes très collé à la réalité, Louis-Philippe d'Alembert, parce que l'affaire Floyd, on la reconnaît dans l'entourage de ce personnage, dans la façon dont il est mort, la façon dont il y a eu cette mobilisation derrière. Vous revisitez une histoire vraie, donc ça peut gêner parce que votre personnage, Emmett, il est différent, il a une vie plus posée que Floyd. Floyd a été condamné plusieurs fois pour possession de drogue, vol, braquage, par exemple. Mais Emmett, lui, il est exemplaire dans votre histoire, même s'il commet des erreurs personnelles. Ce n'est pas le même personnage.
Ce n'est pas le même personnage, mais en même temps, il y a une question quand vous dites que George Floyd a eu des histoires de drogue, etc. Donc il y a un des personnages du roman, Ma Robinson, qui vous dirait « et alors ?»
C'est-à-dire que ah non, bien sûr, ça ne justifie rien. D'accord.
Ce n'est pas parce qu'il aurait été dealer qu'il a le droit de mourir
bien
de
sûr,
toute façon.
Bien sûr.
Donc,
mais vous dressez un autre personnage.
Oui, avec un autre personnage qui est
un autre profil.
Comment dire, le rêve américain, c'est-à-dire c'est un gamin qui vient des ghettos de Milwaukee, donc d'un quartier qui s'appelle Franklin Heights, qui essaie de s'en sortir par le sport. Donc, c'est comme de ces gamins qui vivent dans une famille monoparentale avec une mère qui est seule, qui essaie d'élever cet enfant. Et pour lui, la seule porte de sortie, c'est le sport universitaire. Et puis, malheureusement, il va avoir deux accidents et il ne pourra pas continuer. Mmh. Et retour, d'une certaine façon, à la case départ.
C'est ça. Alors, c'est une star en devenir hein, du football américain. Malheureusement, il va échouer. Pourtant, il est sérieux, il est résistant. Il se tient à l'écart aussi de son ami dealer. Il a tout pour lui, hein, cet homme-là. Et vous construisez comme ça ce roman avec les voix de son entourage. Ceux qui l'ont connu de près et qui racontent leur vie, leur lien avec lui. Il y a, par exemple, l'institutrice qui a été marquée par ce gamin. Qu'est-ce qui la fascine, elle ?
Elle est blanche. Donc c'est une institutrice assez âgée maintenant, qui est blanche, qui vient des beaux quartiers de Milwaukee, donc qui a été prise dans les années 68, hein, où on luttait pour les droits civiques aux États-Unis. Donc elle y était de ce combat-là. Contre, comment dire, la vie de son entourage, de sa famille. Donc, elle s'est battue. Elle a, à l'époque, fumé tout ce qui pouvait se fumer. Et puis, elle a fini par se dire, tiens, il faut mettre la main à la pâte. Ouais. On va se battre, on va militer autrement que par les mots.
Mais pourquoi elle est fascinée par Emmett?
Parce que c'est un garçon charmant. Parce que, justement, on le dit pas, mais les profs ont parfois leurs petits chouchous.
c'est le cas, oui.
Emmett, c'était son petit chouchou. Et puis, elle a été fascinée par ce gamin qui vivait donc sans père.
Et qui chante.
Ah oui, et qui chante.
Et qui chante.
Et qui chante des chansons qui ne sont pas de son âge. En fait.
Exactement. Elle est marquée parce qu'il chante un blues lourd de sens. Écoutez. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down their frame. Les paroles que vous retranscrivez dans ce livre, Louis-Philippe d'Alembert, Alabama Blues de J.B. Lenoir, l'histoire d'un policier blanc qui a tué une sœur et un frère noir en Alabama. Et comme vous le disiez, effectivement, ce n'est pas nouveau, ça continue. Vous montrez qu'aux États-Unis, le racisme, le rejet des Noirs n'est toujours pas réglé. Pire, ça remonte, ça revient peu à peu, plus radical. Vous prenez comme personnage Emmett, c'est le prénom. Emmett qui fait référence à Emmett Till. Un ado de 14 ans, assassiné par des Blancs en 1955, car soupçonné d'attouchement, les assassins ont été acquittés. L'histoire se reproduit sans cesse.
Quand on dit même pas d'attouchement, d'avoir parlé à une jeune fille blanche.
Qui aurait dit avoir été touchée par lui.
Et qui, des années après, dira que c'était tout à fait faux, qu'elle avait inventé tout ça. Entre-temps, Emmett a été assassiné. Donc, c'était cette histoire que je voulais raconter, mais en même temps, une histoire aussi de dignité. L'idée, c'est comment faire vivre ensemble, comment faire communauté,
c'est ça,
une seule et unique communauté.
Emmanuel Kérad.
Je ne voudrais pas laisser passer les fêtes de la Voulenané, de la Vénoulel, de l'an 9, sans vous présenter mes mévervieux, mes vieux, les mévieurs, mes vieux les plus saints, mes saints les plus vieux, mes souhaits les saints sulpères.
La librairie francophone.
Et le livre de Louis-Philippe d'Alembert, le roman Milwaukee Blues, est paru aux éditions Sabine Vespizer. La chronique des libraires qui vous présente les livres qui vont faire parler d'eux en ce début d'année 2022. On commence par la Belgique avec Déborah Damblon. Déborah.
Oui, oui. Et moi, je vais vous parler du dernier Thomas Gunzig, Le sang des bêtes. Parce que Thomas Gunzig, c'est un auteur que j'apprécie, que je suis depuis longtemps. Je trouve qu'il est suffisamment décalé pour nous secouer, pour nous amuser.
Oui, c'est
vrai.
Et
puis, il est assez humain pour nous toucher. C'est vrai, hein?
Oui.
Eh bien, ici, vous allez voir, Emmanuel, dans Le sang des bêtes, il entre encore dans une autre dimension, c'est celle de la sensibilité. Alors, comme toujours, il a un personnage complètement improbable, c'est un vendeur de compléments alimentaires pour bodybuilder, il vient de passer la cinquantaine, vous imaginez tous les questionnements que ça implique. Et puis, cette fois-ci, eh bien, Thomas, il touche à l'intime, à tous nos intimes. Il explore le sens de la vie, celui de l'amour, la durée, le sens du bonheur. Et puis, rien qu'à vous le dire... J'ai des frissons partout.
Bien, il sort quand ce livre alors du coup ?
6 janvier, quelque chose comme ça.
Très bien, donc à suivre le nouveau Thomas Gunzig, Le sang des bêtes aux éditions du Diable Vauvert. Merci beaucoup Déborah, la France, Sophie Todescato, qu'attendez-vous ?
Oui, moi j'attends le prochain livre de Leïla Slimani, qui est annoncé chez Gallimard pour février. Oui. Alors, c'est un livre très attendu, attendu au tournant, attendu tout court, puisque c'est la suite de cette fresque familiale et historique qu'elle avait commencé avec Le Pays des Autres, qu'on avait lu en 2020. Oui. Alors, ce deuxième volume, il va s'appeler, si mes informations sont justes, Regardez-nous danser.
Oui.
Et on va donc retrouver ce beau personnage de Mathilde, très attachant, très, très riche d'identification, et puis surtout découvrir la suite de son histoire et de cette histoire collective qui était racontée avec beaucoup de souffle. Alors c'est un peu la loi du genre, tout l'enjeu de ces séries, des fresques de ce genre, quand le premier volume est bien et convaincant, eh bien le lecteur il a ensuite des exigences et de hautes attentes pour la suite, ça s'appelle l'impatience.
Leïla, on vous attend au tournant donc. Voilà. Le volume 2 du Pays des Autres, formidable fresque de Leïla Slimani, Regardez-nous danser, qui sortira bientôt en ce début 2022. Merci Sophie, on part en Suisse avec vous Dominique Bressoux.
Oui, alors moi c'est le « Dehors et le dedans » de Nicolas Bouvier qui va sortir aux éditions Zoé en février. Alors il s'agit de 44 textes écrits entre 54 et 97, déjà édités en 1982 et même réédités 4 fois depuis.
Ah bon?
Alors ça pourrait faire...
Ben, c'est pas un événement quoi.
Ben, ça pourrait faire un poil réchauffé, je suis d'accord. Oui. Mais voilà, c'est la Bible d'un nombre extrêmement important de voyageurs, où ça devrait l'être, à lire et à relire. Parce que la dimension poétique aide vraiment à voir les voyages. On n'est pas dans la fabrication d'exploits. Ce sont des textes magnifiques à lire et à relire.
Il est augmenté, comme on dit? Il y a des suppléments?
Oui, il y a des petits suppléments. Ouais. Mais l'essentiel, faut reconnaître, c'est déjà paru. Mais ça vaut toujours la peine de le relire.
Allez, Le dehors et le dedans de Nicolas Bouvier, célèbre livre qui ressort donc en 2022 chez Zoé. Merci Dominique. Le Canada, Mike Vienno.
J'attends avec impatience les ombres blanches de Dominique Fortier. Je vous rappelle, Dominique Fortier a gagné le prix Renaudot Essai en 2020 pour Les Villes de papier. Et ce nouveau roman qui sort à la mi-mars va être un peu la continuité, un peu la suite des Villes de papier. On retrouve Emily Dickinson et ses proches, un livre sur l'humanité, sur le deuil. Si c'est écrit aussi joliment que les Villes de papier, nous aurons quelque chose d'extrêmement agréable à lire.
Magnifique Ville de papier, on avait fait une balade incroyable dans Montréal avec Dominique Fortier et Raphaël Germain. Et c'est une auteure sublime, Dominique Fortier, effectivement il faut la lire. Les Ombres blanches, ça sort quand du coup Mike?
On pense à la mi-mars environ.
À la mi-mars, on en reparlera très certainement dans l'émission. Merci beaucoup Mike, merci à tous nos libraires à travers la francophonie. Je vous souhaite une très belle année 2022 encore une fois. Au revoir à tous.
Au revoir, Emmanuel.
Et à très bientôt tout au long de cette année. Merci à vous. Avant de conclure, on écoute le son de l'Outre-mer et Henri Salvador qui était originaire de la Guyane et qui vous souhaite lui aussi une bonne année.
Bonne année les amis, bonne année. Encore une de finie, mais voilà une autre qui commence. Et d'un pas léger, entrons dans la danse, bonne année. Le dernier coup de minuit vient de sonner. Et debout sous le gui, on échange de grosses bises. Et l'on se fait des surprises. C'est un joli briquet pour monsieur qui fume beaucoup. Un merveilleux collier que madame met à son cou. Et pour les petits enfants, il y a des jouets charmants. Un tambour, un clairon, de quoi fuir la maison. Bonne année,
bonne année,
bonne année les amis, bonne année.
Bonne année.
On l'arrose toute la nuit, mais le jour commence à se lever. On se met à bailler, et puis l'on va se coucher en se disant bonne année.
C'était Henri Salvador avec un extrait de Bonne Année, titre de 1957. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Jenab Sangaré. À la rédaction, Jean-Philippe Véré et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin à la programmation musicale. La semaine prochaine, des livres de poche pour commencer l'année avec des lectures de qualité mais économes, pour notre budget bien sûr. Et puis, l'ouverture de la rentrée littéraire de janvier avec nos libraires et invités. Je vous souhaite la meilleure année 2022 possible, protection, joie et santé. À la semaine prochaine, merci infiniment pour votre fidélité. À bientôt, salut. Et n'oubliez pas la rediffusion à 1h du matin avec le bonus créole. À suivre Barbatruc pour une spéciale Mary Poppins.